On fait le point sur l'info, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Sans surprise, la rencontre ce matin entre Marine Le Pen et François Bayrou n'a pas fait changer d'avis la chef des députés RN sur la nature de son vote lundi prochain à l'Assemblée. Bien au contraire, puisqu'elle réclame même une dissolution ultra rapide pour rebattre le jeu politique. Nous serons en direct à Matignon. La Belgique annonce à son tour qu'elle va reconnaître l'État de Palestine lors de la prochaine Assemblée générale des Nations Unies. Et ce, même si on le verra, cette décision ne fait pas franchement l'unanimité au sein du gouvernement. À partir d'aujourd'hui, la Cour suprême du Brésil va décider de l'avenir de Jair Bolsonaro, malgré les intenses pressions exercées par un certain Donald Trump, habitué lui aussi des tribunaux. L'ex-président d'extrême droite risque plus de 40 ans de prison. Enfin, la photo fera certainement le tour du monde. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un doit se retrouver dans quelques heures et pour la première fois simultanément aux côtés du président chinois et de son homologue russe. Mais pour commencer ce journal, un premier hurlement. Nous sommes le 13 décembre 2023, ce jour-là. Caroline Grandjean, 41 ans, enseignante, directrice de l'école à classe unique de Moussage, dans le Cantal, un village de 300 âmes, découvre sur le préau de sa petite école ces mots abjects, honteux, salgouine, un tag qui sera suivi d'autres messages tout aussi ignobles et même de menaces de mort dont l'abreuve un mystérieux corbeau jamais retrouvé. À 5 reprises, elle portera plainte. Elle alertera également l'éducation nationale. En vain, aucun soutien ou presque de quasi nulle part et ce demi-silence coupable face au harcèlement dont elle a été victime a fini par creuser sa tombe hier jour de la rentrée scolaire. Caroline Grandjean s'est donné la mort en se jetant d'une falaise. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzel.
Ces derniers mois, l'institutrice avait déjà attenté à sa vie et pour cause. Dernièrement, il y avait eu une accumulation de plusieurs événements qui avaient renforcé son sentiment d'injustice avant l'issue fatale.
Oui, effectivement, ce qu'avait du mal à accepter la directrice d'école, c'est le manque de soutien de la part de sa hiérarchie. En effet, même si selon nos informations, le rectorat lui a bien proposé de changer d'établissement, l'enseignante a longtemps refusé, estimant, je cite, que c'était elle la victime et qu'elle n'avait donc pas à partir. Après plusieurs arrêts maladie et différentes tentatives de suicide, résignée, elle a finalement accepté de changer d'école, mais elle aura beaucoup de mal, très longtemps, à accepter cette situation. Résultat, elle a donc mis fin à ses jours hier matin, juste après la rentrée, à 10h30. Une détresse que comprend parfaitement Elisabeth Anna Moreno, la secrétaire générale du SEUNSA, qui dénonce également la lenteur de l'enquête interne.
Il y a un an, la collègue souhaitait rester sur sa commune, ce que l'on peut trouver tout à fait normal, puisqu'elle n'était coupable de rien, mais plus utile qu'autre chose, et donc en droit de rester sur son établissement. Cependant, cette année, elle avait participé à la mutation pour pouvoir obtenir une nouvelle école, mais elle n'était visiblement pas de toute façon en état pour pouvoir reprendre le métier à la rentrée. Donc, force est de constater que la souffrance qui était en elle suite à harcèlement était bien trop lourde pour de toute façon pouvoir reprendre ses missions d'enseignante.
À quelques jours du 21 septembre, date du 5e anniversaire du suicide de Christine Renon, cette directrice d'école qui s'était donné la mort dans son école de Pantin, il y a tout juste 5 ans, en Seine-Saint-Denis, une cellule d'écoute a été mise en place par la circonscription de Mauriac afin de mieux accompagner les équipes pédagogiques.
Merci Hakim Kasmi. À une semaine du vote de confiance à l'Assemblée qui devrait sceller le sort de son gouvernement, François Bayrou poursuit aujourd'hui encore la série de consultations politiques a priori vaines qu'il a débuté hier, tout en continuant par ailleurs à défendre sa méthode, critiquée jusque dans sa propre majorité, ce qui fait douter certains de la volonté réelle du Premier ministre. Alors après avoir reçu la veille les dirigeants du Parti communiste, le chef du gouvernement recevait ce matin les représentants du Rassemblement national. Nicolas Ballu, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
En direct de Matignon, la chef des députés RN, Marine Le Pen, avait indiqué qu'elle honorerait ce rendez-vous par simple courtoisie républicaine. Sait-on finalement, Nicolas, ce qu'ils ont bien pu trouver à se dire avec François Bayrou ?
Eh bien, rien qui relève de la nouveauté ou de la négociation, selon les responsables du RN qui sont restés une petite heure dans le bureau du Premier ministre. Et si jamais François Bayrou espérait les convaincre, eh bien c'est raté, selon Jordan Bardella.
Le miracle n'a pas eu lieu et évidemment que cet entretien, même si encore une fois il y a du respect pour la fonction de Premier ministre, ne fera pas changer le Rassemblement national d'avis. Les portes n'étaient pas très ouvertes. Le Premier ministre a indiqué dans son entretien, comme il nous a indiqué, qu'il était prêt peut-être un jour à regarder ce qu'il pouvait y avoir du côté de l'immigration. Mais je pense que le temps n'est plus à la discussion.
Voilà, donc la courtoisie républicaine que vous évoquiez a visiblement surtout consisté en un dialogue de sourds, un échange d'arguments rodés, le RN critiquant des mesures soit anecdotiques, soit profondément nocives, je cite, et la responsabilité du Premier ministre dont les jours sont comptés. Et pour Marine Le Pen, le seul Premier ministre qui pourrait donc avoir une durée de vie politique qui ne serait pas limitée serait celui qui romprait avec le macronisme, comprenez, un Premier ministre RN. Et si elle donne rendez-vous le 8 septembre pour le vote, eh bien le vrai sujet du RN, c'est la dissolution.
Nous nous appelons, Jordan et moi-même, à une dissolution ultra rapide. Parce que la réalité, c'est qu'il faut que la nouvelle majorité issue de ces nouvelles élections puisse construire un budget pour que notre pays ait un budget. C'est ça, en réalité, la seule solution qui soit démocratique.
Ouais, c'est bien pour cela qu'hier, le RN, sous les caméras, réunissait son bureau de campagne des législatives pour dire « nous sommes prêts ».
Merci Nicolas Balu en direct de Matignon avec Mickaël Simon pour les moyens techniques.
Midi et 35 minutes sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
Au vu du drame humanitaire à Gaza et face aux violences perpétrées par Israël en violation du droit international, la Belgique plaidera à son tour pour la reconnaissance d'une entité palestinienne souveraine lors de l'Assemblée Générale des Nations Unies qui se tiendra du 9 au 23 septembre prochain à New York. Le Royaume a décidé ce matin de se joindre ainsi aux pays signataires dont la France et le Canada, désireux de tracer la route vers une solution à deux États. Fabien Cazot, bonjour.
Bonjour.
Correspondant de France Culture à Bruxelles. Alors évidemment, cette initiative se heurte frontalement à la volonté de l'État hébreu de conserver une mainmise pérenne, bien que illégale, sur l'enclave, de même qu'au plan de l'administration américaine qui prévoit la transformation de la bande de Gaza en territoire géré par un fonds supervisé par les États-Unis. Mais pas seulement, puisque la décision de Bruxelles est loin d'avoir fait l'unanimité au sein du gouvernement belge lui-même. En l'occurrence, Fabien, les membres issus des partis de droite y sont particulièrement réticents.
La position belge reflète un accord conclu après plusieurs semaines de négociations difficiles. Elle se veut un point d'équilibre sur un sujet qui met à vif l'ensemble de la société belge. Oui, le Royaume s'engage à reconnaître un État palestinien, mais il a sorti cette reconnaissance de deux conditions. D'abord, la libération de tous les otages encore détenus par le Hamas. Ensuite, l'exclusion de toute organisation considérée comme terroriste de la gouvernance du futur État palestinien. Les dirigeants du Hamas sont déclarés persona non grata en Belgique, tout comme de l'autre côté les colons juifs considérés comme violents, et deux ministres israéliens d'extrême droite, Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, interdiction pour eux également de se rendre en Belgique, tandis que d'autres sanctions, comme le gel d'avoirs financiers, sont en cours de préparation. Enfin, sur le plan économique, les partis de gauche belges ont arraché une dernière concession la nuit dernière, qui fait que selon eux, l'accord situe la Belgique du bon côté de l'histoire. Les importations de produits issus des territoires palestiniens occupés par Israël seront désormais interdites.
Merci Fabien Cazot à Bruxelles. Depuis hier, le Sud global tout entier réuni en Chine, cette sorte de mosaïque stratégique morcelée mélangeant à la fois incitation économique, loyauté politique et accords sécuritaires régionaux, cherche à se présenter au reste du monde comme une alternative à l'ordre occidental. L'occasion en réalité, surtout pour Pékin, dans un contexte de rivalité exacerbée avec Washington, de faire la démonstration de son emprise diplomatique d'une part et de sa puissance militaire d'autre part. Quoi qu'il en soit, la fête va donc se poursuivre encore aujourd'hui avec la venue d'un nouvel invité de marque, le numéro 1 nord-coréen Kim Jong-un. L'autocrate est arrivé ce matin à bord de sa forteresse ambulante et forcément, la rencontre attendue entre les dirigeants chinois, russes et nord-coréens alimente déjà la perspective d'un possible nouvel axe trilatéral qui pourrait changer la donne sur le plan militaire, notamment en Asie-Pacifique. Alors est-ce la raison pour laquelle, dès hier, la Corée du Sud a décidé d'interrompre ses émissions radio de propagande destinées à son voisin du Nord, doté de l'arme nucléaire? C'est en tous les cas la dernière mesure en date prise par Séoul, donc pour renouer le dialogue et réduire les tensions militaires avec Pyongyang, ou du moins essayer, car en réalité, la Corée du Nord a toujours dit jusqu'à présent ne pas être intéressée à l'idée d'améliorer ses rapports avec la Corée du Sud. Alors comment faut-il appréhender aujourd'hui la situation dans la péninsule coréenne et comment la Chine d'un côté et les États-Unis de l'autre influencent-ils cette relation? Pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Marianne Perrondoise, directrice de recherche à l'IRIS et co-responsable du programme Asie-Pacifique. Bonjour madame.
Bonjour Thomas Cluzel.
J'évoquais en introduction donc ce geste en signe de bonne volonté de la part de la Corée du Sud, la fin de cette fameuse émission de propagande qui existait depuis plus de 60 ans. Cet été déjà, Séoul avait médiatisé le retrait de haut-parleurs à sa frontière. Est-ce que tous ces symboles traduisent selon vous une évolution importante de la politique nord-coréenne de la Corée du Sud ?
Alors, il est sûr que la Corée du Nord et la relation avec ce voisin extrêmement turbulent et imprévisible est une priorité pour le gouvernement du Sud, et notamment pour le président issu d'une mouvance démocrate qui a toujours eu pour politique traditionnelle de rechercher le dialogue ou une certaine stabilité dans les relations avec la Corée du Nord. Donc, effectivement, suspendre ces émissions qui sont quand même des émissions de propagande qui permettent d'essayer d'informer, de façonner l'opinion, je n'ose pas qualifier l'opinion publique nord-coréenne, mais essaye de montrer autre chose de l'autre côté du mur, une société différente, libre, où les gens peuvent évoluer librement, écouter de la musique et surtout manger à leur faim. Il est évident que la Corée du Nord apprécie ce cadeau puisque ces émissions visent à saper la légitimité du régime.
Il y a quelques jours, lors d'une rencontre entre donc ce nouveau dirigeant sud-coréen de centre-gauche, Lee Jae-myung, et puis Donald Trump, l'idée d'un sommet entre Kim Jong-un et le président américain a de nouveau été évoquée. Quelles sont les attentes de Séoul vis-à-vis de Washington donc au sujet de la Corée du Nord ?
Alors, Séoul, évidemment, dépend quasi exclusivement de la garantie de sécurité américaine face à un régime nord-coréen nucléaire, nous le savons, et qui peut à tout moment procéder à un tir qui, s'il n'est pas nucléaire, peut être un tir de missile balistique ou tout simplement déclencher son artillerie. Donc, je dirais des garanties de sécurité et au moins avoir l'assurance d'une dissuasion toujours présente de la part des États-Unis est importante. Donald Trump avait donné des signes d'ouverture et était, on s'en souvient, allé très loin en établissant un dialogue, en rencontrant à deux reprises son homologue, puisqu'il l'avait placé sur un pied d'égalité, son homologue nord-coréen. Donc, essayer d'obtenir, je dirais, la reprise de relations à minima par l'entremise de Donald Trump peut être effectivement intéressant et peut être une perspective pour le président sud-coréen qui voit bien que ses efforts sur le plan personnel et ce qu'il est prêt à faire n'intéressent pas pour l'instant le dirigeant nord-coréen. Donc, bénéficier de l'appui américain est différent, bien sûr.
Je l'évoquais tout à l'heure, le leader nord-coréen est pour sa part présent donc depuis aujourd'hui à Pékin, aux côtés de Xi Jinping et Vladimir Poutine pour assister à une parade militaire. L'événement dépasse évidemment le simple cadre protocolaire. Jusqu'à quel point cet événement est-il historique ?
Il est extrêmement important. Il a un aspect historique si on le place dans le cadre de la commémoration mémorielle, puisqu'il s'agit de rappeler et commémorer donc la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire pour cette partie de l'Asie la fin du conflit sino-japonais. Donc ne l'oublions pas. Et donc ce qui est important, c'est la consécration effectivement et l'espace diplomatique et la reconnaissance qui est donnée, je dirais, à la Corée du Nord en tant qu'acteur à part entière de la communauté internationale et partenaire stratégique non seulement de la Russie, mais de la Chine, bien sûr.
C'est bien compris. Merci Marianne Perrondoise, directrice, je le rappelle, de recherche donc à l'IRIS et co-responsable du programme Asie-Pacifique, d'avoir répondu à notre invitation. Et merci également à Louise Guérin pour la préparation.
Plus de 1400 morts et 3000 blessés.
Ou quand la solitude de l'Afghanistan, amputée de son aide étrangère, se heurte désormais aux conséquences d'un tremblement de terre dévastateur dans les régions montagneuses de l'est du pays. Des milliers de familles ont passé leur première nuit sans toit, mais plus encore dans les villages escarpés des zones les plus reculées de nombreux habitants restent toujours prisonniers des décombres. L'Union européenne a annoncé ce matin l'envoi de 130 tonnes d'aide humanitaire. Au Pakistan voisin, là-bas, voilà plusieurs jours que des pluies de mousson torrentielles ont fait sortir de leur lit trois des fleuves du Pendjab, provoquant de gigantesques inondations. Plus de 900 000 habitants ont dû être déplacés. Une catastrophe qui fait craindre le pire à présent dans cette région considérée comme le grenier à blé du pays. Enfin, quand le sort s'acharne au Soudan, pays déjà en proie à une guerre civile meurtrière, une grave crise humanitaire, un glissement de terrain massif y a ravagé un village entier de l'ouest du pays, décimant plus d'un millier de personnes.
Le couperet est tombé hier soir au Burkina Faso. L'homosexualité est désormais illégale.
Une première dans ce pays de l'ouest africain. Jusqu'à présent, aucune loi ne visait particulièrement les personnes homosexuelles, même si elles avaient plutôt tendance à vivre, disons, discrètement. Mais à présent, la pratique de leur amour sera passible de 5 années de prison. Ainsi en a décidé Étienne Monin, la junte militaire au pouvoir hostile à l'Occident.
Et cette loi a été adoptée à l'unanimité. Les 71 membres de l'Assemblée législative de transition qui n'ont pas été élus ont voté pour. Elle doit maintenant être promulguée par l'homme fort de la junte au pouvoir, le capitaine Ibrahim Traoré. Elle prévoit donc une peine de prison pour les auteurs de pratiques homosexuelles et l'expulsion pour les étrangers. Avec cette loi, le Burkina Faso rejoint la majorité en Afrique. Plus de 30 pays sur 52 répriment l'homosexualité aujourd'hui. Dans la liste, on compte le Maroc, l'Algérie, l'Égypte, le Mali qui est très proche du Burkina Faso et c'est même passible de la peine de mort en Ouganda depuis maintenant 2 ans. D'après la presse américaine, l'Afrique est sous le coup d'une double influence, des groupes évangélistes américains et des conservateurs religieux russes font la promotion des valeurs familiales traditionnelles en Afrique et le pouvoir au Burkina Faso est aussi fragilisé. Il subit les attaques répétées des groupes djihadistes dont la dernière remonte à fin juillet et il s'inquiète de la contestation au sein même de l'armée, d'où une répression politique et un coup de vis aujourd'hui dans le domaine sociétal.
Ils seront 8 tout à l'heure sur le banc des accusés.
Et parmi eux, l'ex-président brésilien d'extrême droite, Jair Bolsonaro, avec 7 de ses anciens collaborateurs. Ils sont accusés de tentative de coup d'État. La Cour suprême va donc devoir décider de l'avenir de l'ancien chef de l'État, lequel encourt plus de 40 années de prison, sauf que l'ombre d'un certain Donald Trump pourrait planer sur ce jugement. Le président américain considère que l'ex-chef d'État brésilien fait face à la même persécution politique dont il dit avoir été l'objet, raison pour laquelle il a notamment décidé de lourdes sanctions contre le pays, une ingérence sans précédent, encouragée par les proches de Jair Bolsonaro. Explication signée Jean-Mathieu Albertini.
Eduardo, l'un des fils de Bolsonaro, s'est exilé aux États-Unis pour alerter l'administration trumpiste de la supposée persécution politique contre son père et sa mission a réussi au-delà de ses espérances.
Le Brésil réprime de la même façon que Daniel Ortega au Nicaragua et vous croyez que Trump ne devrait pas réagir en prenant des sanctions contre les personnes qui font cela ? Et s'il ne fait pas ça, le virus autoritaire brésilien va s'étendre jusqu'au territoire américain.
En prenant prétexte de ce procès, Donald Trump a eu la main lourde avec des tarifs douaniers de 50% sur certains produits et des sanctions contre 2 juges. Une situation alarmante pour le professeur de relations internationales, Mauricio Santoro.
Les États-Unis sont le 2e partenaire commercial du Brésil juste après la Chine. Les effets de ces tarifs douaniers sont énormes. C'est le pire moment entre nos deux pays en 200 ans de relations bilatérales et cela va probablement empirer si Jair Bolsonaro est condamné.
Les affinités idéologiques entre les deux hommes n'expliquent pas tout. Trump en profite pour faire pression contre les velléités du Brésil de légiférer sur les entreprises technologiques américaines. Reste qu'en agissant ainsi, il pousse davantage le pays dans les bras de la Chine.
Les Guyaniens étaient appelés à voter hier pour des élections générales, un scrutin complexe d'un point de vue logistique puisque la forêt tropicale recouvre à elle seule plus de 95% du territoire. Alors traditionnellement, le vote se dessine autour des lignes ethniques entre les populations d'origine indienne d'un côté et puis celles afro-guyaniennes de l'autre. Et l'enjeu de taille pour ce petit pays d'Amérique du Sud puisqu'il s'agit en réalité de gérer l'énorme manne pétrolière dont il dispose, soit les plus grandes réserves de brut de la planète par habitant. Les résultats sont attendus au mieux jeudi prochain. Enfin, eux réclament des élections anticipées. Eux, ce sont les Serbes. Ils étaient encore des milliers à défiler hier soir en silence dans les rues de Belgrade. En 10 mois de contestation, ce sont pas moins de 23 000 rassemblements ou blocages qui ont été organisés. Et face à eux, le président de droite nationaliste reste pour l'heure inflexible. Non seulement il refuse de démissionner, dénonçant régulièrement un complot étranger visant à le renverser, mais pire encore, il a fini par renoncer à tous les faux-semblants révélant élan sa véritable nature autoritaire en choisissant pour seule réponse la brutalité policière. On termine avec un mot du temps marqué par le retour du soleil de Rhône-Alpes aux régions méditerranéennes. Les éclaircies devraient également s'imposer progressivement sur la Bretagne. Partout ailleurs, en revanche, nuages et précipitations rythmeront l'après-midi. Quant aux températures, elles afficheront entre 18 et 26 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.